Léger bruit de chaise dans le studio, auditeurs, auditrices. Cela pour vous informer que voici la Méridienne dans votre poste. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à nouveau des invités dans ce studio. Trois invités autour des micros pour parler d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat avec l'ADI, donc une association qui est reconnue d'utilité publique et qui porte l'ambition que chacun, je cite, même sans capital, sans diplôme, voilà, puisse devenir entrepreneur. Alors, pour parler de l'ADI, j'ai avec moi en studio Alexandra Giraud. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes justement une entrepreneuse accompagnée par l'ADI et vous nous parlerez dans cette émission eh bien, de votre cabinet de pressothérapie. Il y a également dans ce studio Jordan Boé. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes conseiller ADI à Tours, donc vous accompagnez les personnes comme Alexandra Giraud dans leur projet. Vous pourrez nous expliquer en quoi consiste cet accompagnement et je salue enfin Céline Constantin, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes directrice territoriale de l'ADI Centre Val-de-Loire. Merci à vous trois d'être venus à Radio Campus Tours pour nous présenter l'ADI. Alors peut-être Céline Constantin, qu'aimeriez-vous dire à nos auditeurs pour commencer sur ce qu'est l'ADI? C'est un réseau national avec des antennes locales. Comment ça marche?
Eh bien, vous l'avez bien introduit tout à l'heure. Donc l'ADI, c'est une association, l'association pour le droit à l'initiative économique. Et ça fait plus de 35 ans qu'on milite pour le fait que toute personne qui a envie d'entreprendre, quel que soit son parcours, quel que soit ses diplômes, quelles que soient ses finances, son réseau, etc., puisse le faire. Et pour ça, on s'appuie sur deux leviers qui sont fondamentaux pour nous. C'est l'accès au financement, qui est le frein numéro un pour entreprendre. Quand on n'est pas financé, en général, ça met fin à l'histoire d'entreprise. Donc, c'est un accès à un financement, à du microcrédit et un accompagnement adapté par rapport à ce que veut faire l'entrepreneur. Donc, on est bien sur ces deux leviers-là d'accès au financement par du microcrédit et de l'accompagnement spécifique. Ça fait donc plus de 35 ans que l'ADI existe et c'est un réseau national. On est implanté dans tous les départements. On a 196 agences en tout sur l'ensemble du territoire et environ 320 permanences pour aller au plus proche de notre public. C'est donc l'an dernier 28 000 créateurs d'entreprises qu'on a financés et accompagnés sur l'ensemble du territoire. En région Centre-Val-de-Loire, l'an dernier, c'est un petit peu moins de 700 entrepreneurs qu'on a financés sur l'ensemble des 6 départements. Pour environ 5 millions d'euros de crédit qu'on leur a alloué pour créer ou développer leur entreprise qu'ils avaient déjà créée il y a quelques années. Donc c'est soit de la création d'entreprise, soit de la consolidation d'entreprises qui ont été créées il y a quelques années. En parallèle de ça, l'ADI, c'est donc notre cœur de métier, c'est vraiment l'insertion professionnelle par le travail indépendant. En parallèle, on peut financer également par du microcrédit l'accès à la mobilité pour un emploi salarié. On s'est rendu compte très rapidement après la création de l'ADI que ce problème de mobilité était majeur et que 20 à 25% des personnes qui cherchent un emploi avaient dû refuser un emploi qu'on leur proposait par manque de mobilité. Et donc, on propose également du microcrédit pour l'emploi salarié. Et l'an dernier, en région centre, c'est un peu plus de 200 personnes qu'on a financées pour accéder à cet emploi salarié ou garder leur emploi salarié pour une personne, par exemple, qui était en horaire de journée, qui bascule en 3-8. S'il n'a pas des transports en commun qui circulent 24-24, ça devient très compliqué de garder son emploi. Voilà pour les missions principales de l'ADI.
Merci à vous. Alors donc, vous êtes directrice territoriale de l'ADI Centre-Val-de-Loire. Qu'aimeriez-vous nous dire justement sur l'ADI en Centre-Val-de-Loire? Est-ce qu'il y a une spécificité sur les autres régions où se trouve l'ADI? Est-ce que c'est un bassin d'emploi ou de non-emploi particulier? Est-ce qu'il y a des secteurs où les gens vont entreprendre plus?
Alors, la région centre est à peu près dans la même lignée de ce qui se fait au niveau national. Peut-être une petite ou une grande différence, c'est qu'on a une sur-représentativité par rapport au national des bénéficiaires des minima sociaux. Je m'explique, sur les 693 créateurs d'entreprises qu'on a financés l'an dernier, en région Centre-Val-de-Loire, on en a un peu plus de la moitié, donc 55%, qui étaient allocataires des minima sociaux. Donc, minima sociaux, très majoritairement, c'est soit les bénéficiaires du RSA ou les bénéficiaires de l'AAH, qui est donc l'allocation adulte handicapé. Donc, c'est plus d'un sur deux qu'on a financé, accompagné, alors qu'ils étaient aux minima sociaux. Et ça, ça vous dit pas mal de choses sur la typologie du public ADI. On va aller chercher ces gens-là qui sont éloignés, un peu plus éloignés de l'emploi que d'autres personnes. Et pour autant, on est convaincu et on le démontre depuis plus de 35 ans qu'avec un accès à un financement spécifique et à un accompagnement spécifique, on peut réussir son entreprise parce que ces personnes-là ont aussi du talent entre les mains. Et on est là pour les aider à le révéler. Et notre dernière étude d'impact, qui est sortie début 2025, montre que 6 sur 10 qui étaient bénéficiaires des minima sociaux sont sortis des minima sociaux après l'intervention de l'ADI.
Alors, il y a des assureurs militants. Est-ce qu'on peut dire que l'ADI, c'est entrepreneuriat militant ?
Oh, je pense qu'on peut le dire. Oui, oui, bien sûr. On sort en fait peut-être des stéréotypes qui peuvent vite émerger dans les têtes de chacun, et parce qu'on nous a souvent enseigné l'entrepreneuriat de cette façon-là, notamment, pas que, hein, mais dans les écoles de commerce, parce que dans nos vies et dans notre entourage, on a aussi beaucoup de personnes qui entreprennent. Et leur profil, ou en tout cas ceux qu'on met en valeur, c'est qui ? C'est souvent des hommes qui ont fait des études, qui ont du réseau, qui ont de l'argent. Donc ça, c'est très bien, et tant mieux que ces personnes-là entreprennent. Mais il y a aussi plein d'autres personnes, beaucoup de femmes qui ont envie d'entreprendre et qui ont peut-être des freins supplémentaires par rapport aux hommes, et notamment une bataille contre ce sentiment d'illégitimité qui peut paraître chez beaucoup de femmes. Et également des gens qui sont sans emploi, qui sont minima sociaux, qui n'ont pas de diplôme et qui se disent « Ah ben, l'entrepreneuriat, c'est sûrement pas pour moi, ce sera très très bien pour les autres, et moi, je vais voir ce que je peux faire de ma vie. » Alors que, très souvent, quand on reçoit les entrepreneurs dans les bureaux des conseillers, Jordan pourra en témoigner, souvent ces personnes-là ont une idée derrière la tête, mais depuis très très longtemps. Ils se disent « Ah, j'aimerais tellement devenir coiffeur, j'aimerais tellement être dans la couture parce que j'adore créer, j'aimerais tellement être dans la pressothérapie, Alexandra nous en parlera tout à l'heure. » Et en fait, il faut ce déclic, et on y travaille avec l'ensemble de l'équipe pour leur dire, nous, on vous fait confiance, on va vous aider. Si vous avez envie d'entreprendre, on va y aller ensemble avec du financement adapté et d'accompagnement adapté. Et en région Centre-Val-de-Loire, c'est 14 salariés qui y travaillent, accompagnés de 35 bénévoles.
Les regards se tournent vers vous, Jordan Boé. Qu'est-ce que vous aimeriez dire ?
Bien, avant toute chose, que effectivement, comme l'a dit Céline, en région Centre-Val-de-Loire, l'envie d'entreprendre est très importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre équipe de salariés et de conseillers essaye de pouvoir accompagner au mieux les porteurs de projets, comme Alexandra, que j'ai pu recevoir récemment. L'idée pour nous, c'est justement de faire comprendre aux personnes ayant des idées, ayant des projets, aussi importants qu'ils puissent être, voire même moins importants dans leur esprit, qu'en fait, entreprendre, c'est possible. C'est pas une montagne. Qu'il suffit simplement d'être accompagné, surtout, de venir nous voir, de pouvoir discuter, d'aller voir les autres partenaires sociaux, de manière à rendre leur projet réalisable. On constate que, effectivement, beaucoup de personnes cherchent à s'insérer économiquement par le biais du travail, mais tout le monde n'est pas fait pour le salariat. Tout le monde n'en a pas envie. Mais trop peu de personnes osent. Donc c'est pour ça que nous, en tant que conseillers, on cherche non seulement à développer nos compétences pour pouvoir accompagner au mieux les porteurs de projets, les conseiller comme il le faut, à développer également notre réseau, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou départemental, pour pouvoir, si jamais toutes les réponses ne sont pas entre nos mains, orienter les porteurs de projets vers les personnes les plus à même de répondre à leurs préoccupations. Lorsqu'on reçoit un porteur de projet, l'idée pour nous, c'est de comprendre son parcours, comprendre ses motivations et essayer avec lui de déterminer quel est le meilleur moyen de rendre ce projet possible et surtout pérenne. Parce que c'est là la chose la plus importante. On peut avoir beaucoup d'idées, mais je pense qu'aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, le plus gros combat, c'est de rendre un projet pérenne, de manière à ce qu'il puisse soit constituer un revenu principal, il peut y avoir des métiers passion dans ce cadre-là, ou justement une activité génératrice de revenus en complément d'un emploi salarié, mais qui peut permettre justement d'augmenter ses revenus et d'améliorer sa qualité de vie.
Alors comment vous expliquez aux personnes que vous recevez, peut-être que vous faites des ateliers de présentation de l'ADI dans certains endroits, comment vous leur expliquez c'est quoi entreprendre ?
C'est exactement ça, c'est-à-dire que on organise de temps en temps des réunions, soit dans les locaux de nos partenaires, soit dans nos propres locaux. On se déplace tout simplement dans la rue, dans les marchés, pour pouvoir en fait échanger avec la population et leur expliquer qu'en fait, entreprendre, c'est, je dirais de manière assez simple, c'est rendre possible un rêve que l'on peut avoir, une idée que l'on peut avoir. Quelqu'un qui a toujours été habile de ses mains, mais a toujours eu l'impression qu'il n'était pas en capacité d'entreprendre, puisque il faut éventuellement beaucoup d'argent pour pouvoir rendre possible une idée. Nous, on va chercher à lui expliquer que la première chose qu'il faut pour entreprendre, au-delà de l'idée, c'est de voir ce que l'on a autour de nous, avec quoi est-ce que l'on peut démarrer. Certains ont une expérience très importante qu'ils peuvent valoriser, et c'est ce qu'on cherche à mettre en avant. D'autres ont des moyens, mais n'ont pas forcément d'idées très définies. Et nous, on va venir avec eux structurer leur idée pour faire émerger un projet de manière à le rendre réalisable.
En fait, c'est de dire, est-ce que j'ai quelque chose qui peut se vendre, en fait, qui peut être générateur de revenus, une compétence, un savoir-faire ? Ça peut être des choses du quotidien. Par exemple, je sais très bien cuisiner, je sais coudre.
Très exactement.
Je sais réparer plein de choses.
Très exactement. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait réparer plein de choses, on va lui expliquer que plutôt que de le faire, sans que personne ne le sache, éventuellement avec quelques voisins ou autres, on va peut-être l'accompagner pour qu'il puisse devenir, je sais pas, homme toute main par exemple, l'aider à s'immatriculer, puisque parfois entreprendre, c'est aussi faire face à l'administratif, et nous on vient lever ces freins-là, essayer d'apprendre aux entrepreneurs ou aux porteurs de projets ce qu'est l'administratif, quelles sont les obligations à respecter. Ou effectivement, quelqu'un qui a le talent de cuisiner, c'est déterminer avec lui de quoi est-ce qu'il a besoin pour pouvoir justement vivre de cette passion, puisque souvent la cuisine est une passion pour en tout cas beaucoup de personnes que l'on accompagne. Comment est-ce qu'il peut se faire connaître, quelles sont les obligations, pareil, légales à respecter, que ce soit les formations hygiène ou autres. Toutes ces informations-là que beaucoup n'ont pas, et surtout parce qu'ils ne savent pas où aller les chercher, nous, en fait, on les concentre et on vient les démocratiser, les rendre accessibles aux porteurs de projets. Et c'est comme ça que derrière, ils peuvent justement rendre concrètes leurs idées.
Mais il y a peut-être aussi tout un travail sur l'idée de montrer aux gens qu'ils sont capables, parce que c'est ce que vous disiez aussi, c'est peut-être des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis longtemps, qui peut-être n'ont pas fait toutes les études qu'elles auraient aimées, et qui peut-être peuvent avoir une confiance en soi pas toujours au top. Donc de dire « vous êtes capable », ça peut leur faire peur aussi.
Exactement. Et donc dans ce cadre-là, on organise parfois des ateliers, des réunions, pour qu'ils puissent venir rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont fait face aux mêmes difficultés, aux mêmes questionnements, de manière à ce qu'ils se rendent compte que déjà, ils ne sont pas seuls à avoir traversé ces situations. Et surtout pour qu'ils puissent, dans un cadre beaucoup plus léger, eh bien, présenter leurs produits, que ce soit des bijoux, que ce soit des plats préparés, ou que ce soit, dans le cadre d'Alexandra, ses prestations, de manière à justement être entouré. Le premier frein à l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est la solitude. Et en fait, tout ça vient rendre, je dirais, normal l'idée d'entreprendre, la position que l'on peut avoir dans cette situation. Et justement, parmi l'ensemble des ateliers et des formations que l'on peut proposer, puisque les entrepreneurs ont droit à un accompagnement dès qu'ils sont clients à l'ADI, on vient justement lever les freins, travailler sur la confiance en soi, que ce soit par du coaching, que ce soit par des formations à distance. En fait, on s'adapte au mieux à la situation de l'entrepreneur de manière à pouvoir lui apporter tout un savoir et tous les accompagnements nécessaires.
Bien, je vous propose de faire une première pause musicale avant d'aller peut-être voir de plus près ce que propose l'ADI dans le cadre de ces accompagnements. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure le prêt, peut-être aussi toutes les questions qu'on se pose quand on lance un projet entrepreneurial. Je vous propose d'écouter, et bien attention, je vais ouvrir la boîte à musique et on va écouter Joby Valente, disque La Rayée. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tours dans la Méridienne. Nous sommes avec l'ADI. La merveilleuse Joby Valente sur Radio Campus Tours 99.5 FM. C'est toujours la Méridienne et nous parlons à nouveau d'entrepreneuriat avec l'ADI. Alors, il me semble que les micros sont un peu forts dans le studio. Je vois ça grâce au vue-mètre parce que à Radio Campus Tours, eh bien, voilà, nous animons et nous sommes aussi dans le cockpit. Voilà, nous sommes à talents multiples. Alors, chers invités, Voilà, peut-être voudriez-vous nous en dire plus sur ces prêts concédés par l'ADI aux entrepreneurs. Alors, comment ça marche? Qui peut en bénéficier?
Alors, comment ça marche? Donc, on a, au niveau du financement pour les entrepreneurs, on peut aller jusqu'à 15 000 euros. 15 000 euros de crédit qu'on va rembourser sur, alors ça dépend évidemment des configurations, mais jusqu'à 4 ans. En moyenne, en fait, on vient rarement nous demander 12 000 euros, 15 000 euros, voilà, des sommes assez, qui peuvent être assez importantes. Le prêt moyen est de 5 000 euros. En fait, les personnes qui ont envie d'entreprendre, le point de blocage au niveau du financement, c'est 5 000 euros en moyenne. Ça paraît pas énorme. Et pour autant, quand on n'a pas les 5 000 euros, ça coince. Donc nous, on est là pour décoincer justement cette difficulté. Donc 5 000 euros sur 3 ans, ça c'est la moyenne des microcrédits qu'on a fait en 2024. Et comment ça marche après? Eh bien, c'est donc il y a des rendez-vous d'instruction, mais Jordan expliquera plus dans le détail comment ça se passe, puisque c'est lui qui le fait au quotidien. Et ensuite, on étudie le dossier. Il y a un accord avec un comité de décision qui est assez rapide, mais pareil, Jordan vous expliquera tout ça. Et ensuite, il y a le remboursement. Donc, c'est aussi les conseillers qui font le premier niveau de recouvrement, donc pour récupérer tous les mois la somme et rappeler les clients si jamais ça coince un mois, on appelle le bénéficiaire du crédit pour savoir ce qui se passe, quelle est la difficulté, et là aussi c'est sujet à accompagnement puisqu'on est là pour les aider à lever cette difficulté et pérenniser le remboursement du crédit au long terme.
Est-ce qu'il y a besoin d'un garant?
Oui, effectivement, dans le cadre de l'instruction justement, pour vous expliquer un peu le processus, donc c'est-à-dire qu'un rendez-vous est pris par le porteur de projet, soit via notre site internet ou via notre plateforme, ou on passe en directement à l'agence, on fixe un rendez-vous donc avec le porteur de projet, et pendant ce rendez-vous, on va essayer de comprendre son parcours, de comprendre son idée, qu'est-ce qui l'a amené à l'idée d'entreprendre de cette manière-là. On va discuter de plein de choses. Quel est le statut juridique qu'il souhaiterait mettre en place, pourquoi. On va essayer de déterminer quel est son niveau de formation et en quoi il y a une adéquation entre la personne et le projet. Pendant ce rendez-vous, on va également étudier la situation personnelle du porteur de projet et également sa situation bancaire. Puisque dans le cadre du financement, comme vient de le dire Céline, on demande du coup un remboursement par des mensualités, et surtout on ne veut pas générer de la précarité, c'est-à-dire financer un porteur de projet de manière à ce qu'il ne soit pas en mesure de pouvoir rembourser le prêt qu'il vient demander. Et effectivement, on demande lors du financement d'avoir un garant qui puisse être une personne proche, de confiance, pour pouvoir accompagner l'entrepreneur dans son projet. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des premiers freins à la pérennité d'une activité, c'est la solitude. On demande surtout à ce que ce garant puisse être soit un relais de l'ADI envers l'entrepreneur, ou soit un relais de l'entrepreneur vers l'ADI, si jamais un jour nous avons une information importante à transmettre, un changement quelconque, ou même une offre différente et dont pourrait bénéficier l'entrepreneur. Et donc effectivement, on base grandement notre collaboration avec les entrepreneurs sur la relation de confiance. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que l'on demande un garant pour pouvoir soutenir tant l'entrepreneur sur l'aspect, mental, personnel, que aussi sur l'aspect financier, c'est-à-dire que dans le cadre d'une difficulté financière, ce qui peut arriver à tout le monde, si l'entrepreneur détermine qu'il est dans l'incapacité de pouvoir régler sa mensualité dans le mois, par exemple, bien entendu, la première chose à faire, c'est de pouvoir contacter son conseiller pour pouvoir l'en informer, que l'on puisse trouver une solution ensemble. Et il peut nous arriver justement de discuter avec le garant pour voir si lui, il pourrait être en mesure de venir soutenir l'entrepreneur pour cette mensualité, de manière à ce que le remboursement soit honoré.
Alors c'est peut-être parfois compliqué de trouver un garant, je pense peut-être cette personne qui n'ont pas de famille ou alors peut-être certaines femmes aussi qui justement veulent entreprendre pour gagner une autonomie financière et qui n'ont pas spécialement envie de demander à leur conjoint d'être garant. Donc où est-ce qu'on peut trouver d'autres garants ?
Eh bien, il y a des partenaires en fait qui peuvent se porter garant sur les prêts. Après, dans l'idée, comme vous venez de le dire, dans le cadre de certaines femmes qui ne veulent pas que le conjoint se porte garant, nous, dans un premier temps, le premier niveau que l'on demande, c'est-à-dire que ça peut être une personne même extérieure à la famille, pas forcément un parent, ça peut être un ami, un collègue de travail pour les personnes qui sont en activité salariée, de manière à en fait, à pouvoir avoir un interlocuteur. Il peut y avoir des personnes morales également qui peuvent se porter garant. Mais ce que l'on cherche avant tout, c'est justement de pouvoir avoir un interlocuteur et avoir un échange.
En fait, ce qui est important, comme le dit Jordan, c'est de créer ce climat de confiance. Donc, on va le chercher majoritairement avec une personne physique qui se porte caution, comme il vient de l'expliquer. Dans certains cas, vous avez raison, c'est très compliqué d'aller chercher. Donc, on ne veut pas créer un frein supplémentaire à une personne qui est déjà en difficulté parce qu'un peu plus isolée qu'une autre personne. Et l'idée, c'est de se dire, de se questionner sur comment on peut malgré tout l'aider dans son projet entrepreneurial et avoir ce climat de confiance qu'on va travailler avec elle. Et donc, dans ces cas-là, on va s'appuyer sur... Alors, ça peut être des personnes morales. On pense à d'autres associations, par exemple, qui accompagnent déjà cette personne-là parce qu'isolée. Alors, ça peut être des associations d'entraide, des associations d'aide alimentaire, etc. Secours catholique. Donc, dans ces cas-là, on va créer des partenariats avec ces personnes morales qui peuvent se mettre d'accord et peuvent prendre l'occasion de se porter caution sur pour ce bénéficiaire qu'ils accompagnent. Ça peut être aussi, on va travailler avec la communauté. Si la personne est extrêmement entourée par une communauté, mais avec dans une communauté où les profils peuvent être fragiles, c'est-à-dire on n'est pas avec des gens qui sont salariés, avec au minimum un SMIC, etc. Alors, on va aller travailler un peu différemment ce climat de confiance et on va aller voir avec cette communauté. Donc, c'est toute une approche très, très spécifique hein, qu'on a, sur laquelle on a une expertise pour aller chercher deux personnes qui vont se porter témoins en fait, du sérieux de l'entrepreneur qu'on est prêt à suivre. Et voilà, donc c'est pas une caution classique, mais on va aller travailler ce tissu de témoins, notamment via la communauté qui l'entoure.
Merci. Et alors justement, à quel moment du projet intervient le prêt ? Parce que j'imagine qu'il ne suffit pas de pousser la porte en disant « je veux un prêt ». Il y a quand même plein d'étapes avant. Donc à quel moment d'un projet ça arrive
La partie du financement intervient en fait, je dirais, à la toute fin du projet, quand on est vraiment au plus près de la mise en place de celui-ci. On passe du temps à réfléchir avec l'entrepreneur à l'idée qu'il veut mettre en place, à le structurer dans un premier temps, à faire émerger quels peuvent être les freins à l'activité, quels peuvent être les concurrents, justement quels peuvent être ses futurs partenaires, tout ce qui va pouvoir l'aider à générer du chiffre d'affaires. Lorsque l'on rencontre d'autres, je dirais, éventuels freins ou obstacles, on essaye de les surmonter. Par exemple, des personnes qui ne sont pas familières, et on le rencontre beaucoup, avec l'administratif. On essaie justement d'organiser des ateliers pour pouvoir reprendre tout ça, expliquer les choses, les soutenir, les orienter, le cas échéant, vers des partenaires qui peuvent les aider. De manière à ce qu'ils puissent s'approprier en fait tout le fonctionnement de la future activité. Et lorsque nous, on détermine en agence que tout ça va pouvoir en fait se faire de façon solide, à ce moment-là, on va pouvoir procéder au décaissement du prêt, donc après validation par le comité de décision. Et surtout, c'est que pendant toute la durée du prêt, pendant toute la durée pendant toute la vie, je dirais, du financement de l'entrepreneur, on continue d'accompagner ces entrepreneurs pour qu'ils puissent justement continuer de développer leur activité.
Alors, vous évoquez aussi la... Pardon, je voulais réagir.
Oui, peut-être en complément. On est souvent sur une approche entrepreneuriale, en tout cas dans ce qu'on nous a appris dans les imaginaires, par étapes. C'est-à-dire, on doit faire son business plan, on va faire son étude de marché, etc. Et peut-être à la fin de la cinquième, sixième, dixième étape, on va entreprendre. Ça, c'est une approche qui est très bien et louable. Mais il y a aussi une autre approche qui est plus sur le mode de l'effectuation. Et ça, on en rencontre beaucoup. Et Jordan en a beaucoup rencontré des entrepreneurs et entrepreneuses qui réfléchissent de cette façon-là. Et je vais juste vous donner un exemple. C'était à Tours. Je discutais avec une entrepreneuse qui avait envie de récupérer les légumes qui sont pas assez rouges, pas assez ronds, pas un peu tout cabossés, pour les réutiliser, faire des bocaux, etc., etc. Et voilà, elle avait ça en tête et ça lui parlait beaucoup et elle voulait se lancer sur cette activité-là. Et un jour, par une opportunité, quelqu'un s'approchait et lui dit « Mais moi, j'ai 5 cajots de tomates, je ne sais pas quoi en faire ». Elle ne s'attendait pas à recevoir 5 cajots de tomates comme ça ce matin-là quand elle s'est levée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec 5 cajots de tomates? Elle a fait donc, elle a dit elle-même, le premier ketchup, alors avec la marque déposée, mais premier ketchup made in Indre-et-Loire. Et ça, typiquement, c'est le mode effectuation. Elle n'a jamais fait de business plan pour expliquer qu'elle allait faire le premier ketchup made in Indre-et-Loire. Mais voilà, elle a fait une sauce tomate parce que un jour, quelqu'un lui a proposé 5 cajots de tomates gratuitement. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça aussi, c'est une façon d'entreprendre. Et nous l'a dit, en fait, les étapes qu'a décrit Jordan, elles peuvent apparaître un peu simultanément. Donc, à quelle phase intervient l'ADI ? Un peu à toutes ces phases-là. Ce qui est sûr, c'est que la personne va venir nous voir quand elle a une idée claire de ce qu'elle veut faire. Voilà, je veux donner une deuxième vie à ces fruits et légumes qui sont tout cabossés. Ça, c'est très clair. Après, la façon dont elle va le faire, dans quel sens, etc., ça, j'allais dire, peu importe. Nous, en tout cas, on sera là pour l'accompagner. Et peut-être que elle a besoin tout de suite maintenant d'un premier financement parce qu'elle veut faire les marchés, parce qu'elle a déjà fait les 5 premiers bocaux, les 10 premiers bocaux dans sa cuisine. Dans ces cas-là, elle a juste besoin d'une table, d'un barnum et de 3 chaises, sauf qu'elle n'a pas l'argent pour acheter la table, les 3 chaises et le barnum. Donc nous, on est là pour lui mettre le pied à l'étrier tout de suite maintenant et ensuite d'avancer tout au long de son projet pour en effet qu'il prenne de l'ampleur et qu'il puisse devenir pérenne.
Après, j'ai l'impression que ce que vous dites, c'est un rapport au temps aussi qui est particulier, de se dire bah, voilà, peut-être des fois il y a des personnes qui n'ont pas le temps de faire un business plan, un truc, un machin, c'est pas qu'elles, voilà, parce qu'en fait elles ont besoin de travailler tout de suite et pas dans 5 ans.
Alors ça, je pense que Jordan peut le témoigner, mais souvent les gens quand ils viennent nous voir, ils sont toujours dans l'urgence. C'est une certaine urgence, une envie folle d'entreprendre, mais tu as peut-être des exemples en tête.
Bien sûr, c'est vrai qu'il y a, souvent ce côté urgent, parce que beaucoup de porteurs de projets, en fait, se posent la question d'entreprendre pendant très longtemps. Et lorsqu'ils veulent concrétiser cette idée, ils ont souvent une fenêtre très décisive, c'est-à-dire, par exemple, il faut vite que je puisse entreprendre avant justement de ne plus être éligible à certains minima sociaux. Et en fait, le risque de ne pas avoir de revenus si jamais l'activité ne fonctionne pas ou quoi que ce soit, beaucoup d'entrepreneurs justement sont dans cette situation. Ils se disent c'est maintenant ou jamais, parce que si l'activité ne fonctionne pas, il faut que je puisse rebondir autrement. Nous, face à cette urgence, on essaie justement de s'adapter, mais on essaye aussi parfois de, alors je dirais pas de calmer le jeu, mais justement de leur expliquer qu'en fait, dans l'urgence, en fait, tout n'est pas urgent. Il y a des choses qu'il faut effectivement prioriser. Mais on garde quand même en tête que personne de mieux qu'un entrepreneur ne peut connaître sa propre situation. Et ça, c'est souvent le frein qu'ils peuvent rencontrer ailleurs. C'est ce côté où d'autres personnes vous disent ce qui est bon pour vous. Et nous, on estime plutôt que c'est l'entrepreneur qui sait ce qui est bon pour lui. Et nous, vu qu'on a les outils, on vient les mettre à son service. Et donc, c'est ce qui peut permettre, justement, face à ces urgences-là, de mettre en place des moyens et de l'aider rapidement à pouvoir concrétiser son projet. Et typiquement, aujourd'hui, le comité de décision se réunit une à deux fois par semaine. On fait des rendez-vous d'instruction qui peuvent durer une heure, parfois deux heures quand c'est nécessaire. On est en contact constamment avec les personnes que l'on reçoit. S'il y a besoin de compléments d'informations, de discuter de certains points, on s'appelle, on s'envoie des SMS. Alexandra pourra vous le dire. Et derrière, nous, on vient, je dirais, en tant que conseiller, on participe à la création de ce projet. C'est-à-dire que lorsqu'on vient devant le comité de décision, on s'y attache. Et c'est parce qu'on y croit tout autant que l'entrepreneur. Et le but pour nous, justement, c'est que le porteur de projet puisse démarrer très vite son activité pour pouvoir générer très vite du revenu et donc améliorer sa situation personnelle. Donc, effectivement, face à ces urgences-là, on est toujours dans la volonté de servir le client qui vient nous voir, bien entendu avec une étude très précise, que ce soit de la situation personnelle, de la situation bancaire, de la situation familiale, ou même, je dirais, au niveau de la formation, puisque parfois, certains porteurs de projets ont des envies d'entreprendre, mais qui nécessitent d'abord des formations préalables. Mais voilà, on essaye de concilier tout ça, effectivement, comme on peut souvent le dire, ne pas confondre vitesse et précipitation. Mais, pour le coup, oui, on n'est pas là non plus pour jouer la montre et avoir cette posture, je dirais, extérieure, voire même au-dessus du client, en lui disant, bon, bah, écoutez, ça, c'est bon pour vous, ça, c'est pas bon. Non. Lorsqu'un entrepreneur vient nous voir et nous dit qu'il estime que telle chose est bonne pour lui, nous, on doit comprendre pourquoi. Si ça nous paraît pertinent, alors justement, on va l'accompagner là-dessus. Si maintenant, on a notre propre avis, bien entendu, hein, que ce soit des réserves, on le partage à l'entrepreneur de manière à ce qu'il puisse y avoir une décision objective. Et c'est ça, en fait, que l'on recherche au quotidien quand on reçoit des porteurs de projets. Et lorsque tout ça se goupille bien, je pense que en quelques jours, en fait, l'entrepreneur peut justement bénéficier du financement et démarrer son projet.
Ouais, ce que dit Jordan là est très très important et je dirais même que c'est au cœur de ce que cherche à faire Ladi et de ce qu'on fait au quotidien au niveau de la posture. C'est il l'a dit et notamment par rapport à un public qu'on accompagne qui est plutôt dans une certaine fragilité, en tout cas pour une grosse moitié d'entre eux, parce qu'ils sont aux minima sociaux, etc. Quand on est aux minima sociaux et quand on est dans une situation de pauvreté. Souvent, non, toujours, on nous dit ce qu'on doit faire. Et vous êtes face à des structures très régulièrement qui vous expliquent ce que vous devez manger, qui expliquent vers quel emploi vous devez aller, qui vous disent que l'entrepreneuriat, c'est sûrement pas pour toi, tu vas d'abord aller prendre un emploi salarié et qui vont aller à marche forcée sur un emploi salarié qui n'est pas le souhait de la personne. Mais parce qu'elle est en situation de pauvreté, on va lui dire qu'elle n'a pas le choix. Et donc, on est face régulièrement à des injonctions pour ces personnes-là. Et en fait, elles perdent, et ça fait partie dans les études de lutte contre la pauvreté, c'est des critères aussi de pauvreté, en fait. Il y a la pauvreté pécuniaire, financière, mais il y a aussi le fait de perdre complètement la main sur sa vie. Ça aussi, c'est un critère de pauvreté. Et donc, nous, on lutte contre ça, pour que les personnes qui ont envie d'entreprendre puissent le faire, avec notre intervention, avec notre aide s'il le faut. Mais ça, c'est vraiment primordial dans la mission de l'ADI. Et les chiffres que montrent nos études d'impact qu'on fait tous les 3 ans, donc la dernière qui est sortie, montrent que 95% des personnes qu'on a financées et accompagnées, donc il y a 2 à 3 ans, puisque ça a porté sur des gens qu'on a financés en 2021-2022, 95% disent être aujourd'hui insérés professionnellement. Soit parce qu'ils vivent de leur activité indépendante, pour à peu près 80% d'entre eux, soit pour le reliquat, donc 15% d'entre eux, parce qu'ils ont réussi à rebondir sur un emploi salarié beaucoup plus facilement que ce qu'ils auraient pu faire avant l'intervention de l'ADI. Donc on est bien sur cet élan d'insertion professionnelle, c'est ça qu'on cherche à faire, et que les personnes puissent reprendre main sur leur vie professionnelle et leur vie tout court. Et dans cette étude d'impact, on va aller chercher aussi des éléments beaucoup plus qualitatifs, et notamment sur l'estime de soi. L'estime de soi, quand on est dans une situation de très grande précarité ou une situation de précarité, de pauvreté, ou quand on est au minima sociaux, on sait très bien que ça commence à flancher, l'estime de soi. C'est extrêmement compliqué, la confiance en soi, etc. Faut aller la chercher. 77% estiment et disent qu'après l'intervention de l'ADI, après le financement qu'ils ont eu de l'ADI et l'accompagnement qu'ils ont eu de l'ADI, 77% ont une plus grande estime d'eux-mêmes. Voilà, donc ça, on est sur des éléments beaucoup plus qualitatifs, mais qui sont d'ampleur sociétale, j'allais dire, pour la lutte contre la pauvreté. Donc c'est ça vraiment qu'on cherche à faire. Donc oui, quand on vient nous voir, il y a souvent une urgence, etc. Mais parce que on est dans cette urgence-là de j'ai envie là tout de suite maintenant de reprendre main sur ma vie. Et on essaye d'y répondre au mieux avec nos voilà des délais de réponse et des qui sont souvent courts. Alexandra va nous parler de son expérience et aussi par rapport à des outils de l'accompagnement qu'on pourra donner au fur et à mesure à l'entrepreneur.
Alors avant de donner la parole à notre entrepreneuse, Alexandra, j'avais une autre question pour vous trois peut-être. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire aussi que l'ADI n'essaie pas de pousser les gens dans des clichés ? Parce que des fois, il y a des dispositifs pour les jeunes. Donc si tu es jeune, il faut que tu entreprennes de telle façon. Si tu es une femme, il faut que tu proposes tel projet. Sinon, tu ne seras pas soutenue. Si tu es un jeune des quartiers, fais ça, parce que sinon tu ne seras pas soutenu. Donc est-ce que l'ADI va peut-être contre ces choses-là, ou alors dit aux gens, oui, tu peux faire ça, mais peut-être que tu peux faire autre chose. Je ne sais pas ce que vous aimeriez en dire.
Mais je pense que, en tout cas, depuis que je suis à l'ADI, ce que j'ai pu constater, c'est qu'au quotidien, on lutte contre les stéréotypes et les clichés. Je pense que l'un des premiers dossiers que j'ai pu faire depuis mon arrivée à l'ADI, c'était de financer donc une femme entrepreneuse. Donc là déjà on commence à s'éloigner un petit peu des clichés, mais surtout qui voulait devenir électricienne et également faire de la peinture en bâtiment dans un milieu très masculin qui selon les dires est parfois qualifié de macho. Et l'idée, ça a été justement, grâce à elle, de déconstruire l'image qu'on pouvait se faire de ce milieu-là pour pouvoir rendre son projet possible. Et en fait, c'est là que j'ai trouvé sens à mon métier de conseiller, c'est-à-dire que face à tous les obstacles qu'elle pouvait rencontrer, puisque c'est un métier physique, c'est un métier où il faut effectivement être capable à la fois de communiquer pour se faire connaître, à la fois de communiquer correctement avec ses propres partenaires, se créer un réseau. Ça m'a appris qu'en fait, alors je dirais pas forcément que tout est possible, mais en tout cas quand on y met les moyens et quand on arrive justement à faire les recherches qu'il faut et surtout être accompagné comme il se doit, alors les stéréotypes et les clichés ne tiennent pas. Alors oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. J'entends souvent des dispositifs jeunes, parce que quand on est jeune, dans telle situation, il faut plutôt faire telle ou telle chose. Moi, j'ai découvert qu'il n'y avait pas d'âge, il n'y avait pas de manière. Peu importe comment ou à quel endroit, à partir du moment où on croit en l'idée que l'on a d'un métier, d'une activité, et que l'on peut être accompagné, alors souvent, les freins disparaissent assez rapidement. Et c'est justement là le travail que l'on essaye de faire au niveau national, mais surtout en Indre-et-Loire, c'est justement de se faire connaître, parce qu'il y a aujourd'hui trop peu d'entrepreneurs qui sont accompagnés, et donc beaucoup ont encore certains de ces clichés en tête.
Alors je pense qu'en effet le travail contre ces clichés, il est important, hein, les clichés, les stéréotypes, on l'a dans dur, et en fait on est tous imprégnés de ça. Et ce que nous démontrent les entrepreneurs qu'on reçoit au quotidien, c'est que il y a pas une unique façon d'entreprendre. Il y a plein de façons d'entreprendre. Alexandra va nous raconter son histoire, mais Jordan a parlé de cette femme qui voulait devenir électricienne. Vous voyez, je pense que même le féminin, je suis pas sûre qu'il existe beaucoup, mais et pourquoi pas. J'avais en tête aussi un autre exemple qu'un collègue de Jordan a financé, accompagné. Elle était peintre en bâtiment. les banques lui disaient, mais une femme patronne, alors en plus, alors, j'allais dire en plus, oui, vous voyez, femme d'origine musulmane, peintre en bâtiment. Et ben, ça ne va pas ensemble. Mais pourquoi ça irait pas ensemble? Et donc, on l'a financée. Et aujourd'hui, elle fait un très bon chiffre d'affaires. Elle a embauché des personnes. Et voilà, et tous ces clichés. Je me souviens aussi un autre exemple. J'avais d'ailleurs un partenaire financier que j'avais invité lors d'une instruction. Une personne qui sortait de prison, d'ailleurs, qui vient nous voir. Et il voulait faire deux activités en même temps. Il voulait être carreleur et boulanger. Alors, on se dit, bah, carreleur et boulanger, c'est chaud quand même, c'est pas terrible, il va jamais y arriver. Et en sortant du rendez-vous d'instruction, le partenaire me dit, le financeur me dit, mais bon, bah, va falloir qu'il choisisse. Mais je lui dis, mais pourquoi il choisirait en fait? Qui a dit qu'il fallait choisir son entreprise? Alors, en effet, on peut se dire, là, les boulangers qui nous écoutent peut-être, ou les carreleurs nous disent, bah, jamais de la vie, il pourra faire les deux en même temps. Mais sauf que la personne, en fait, elle avait déjà son four à pain au fond du jardin. Et que le pain, elle le faisait déjà tous les matins, alors pas à temps complet, mais elle le faisait le matin. Il avait une organisation de vie et il savait poser des carrelages. Donc il avait des petits chantiers à droite, à gauche. Mais il avait une organisation de vie, il avait un savoir-faire qui faisait qu'il pouvait faire un petit peu de pain, qu'il vendait à son réseau. Et puis, il avait aussi quelques chantiers, parce qu'il avait beaucoup de réseaux, et le bouche à oreille marchait pas mal, quelques petits chantiers pour poser du carrelage. Bon, qui a dit qu'il fallait choisir? Personne. Donc nous, on l'a financé pour acheter un petit peu de matériel, et peut-être qu'au fur et à mesure qu'il mènera son entreprise, il va décider de se dédier à l'une ou l'autre des activités, mais ce sera son choix. Nous, on peut lui dire, tu sais, ça va être chaud, voilà, explique-nous comment tu vas organiser ta journée, etc., pour qu'on comprenne bien comment tu vas gérer tout ça. Mais on n'est pas dans la posture de lui dire, mais non. Tu vois, tu n'as pas rempli la case de quelle activité. Il n'y a pas la place pour mettre deux activités, il n'y a que la place pour mettre qu'une seule activité. Non. On est contre ces stéréotypes qu'on peut avoir, ou ces injonctions qu'on peut avoir. On est là pour comprendre comment la personne veut entreprendre, qu'est-ce qu'elle y met comme énergie, comme organisation, comme entourage aussi. Parce que peut-être qu'il a aussi des amis qui sont prêts à l'aider, parce qu'ils sont aussi dans le métier, etc. Bref, c'est tout ça qui fait que on sort des sentiers battus et on accueille de façon inconditionnelle la personne qui vient nous voir et qui va nous expliquer son projet de A à Z. Après, on va le conseiller et la personne prendra ou pas en compte nos conseils, parce que c'est elle qui a la main sur son projet d'entreprise.
Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale et puis après nous donnerons enfin la parole à Alexandra Viro, voilà, itinéraire d'une entrepreneuse. Vous pourrez nous raconter votre projet. Alors on va écouter Uzi Freya, Don't Disturb Me, sur Radio Campus Tour. C'est toujours La Méridienne, à tout de suite.
Shining body stepping back, body smooth, body cool, I don't give a damn. Bloody shoes, freaky dress, I am saving them. Openness, elegance, freaky kicky am. Fall in love, lost myself, take a good ride. Desi shame, damnation, no fucking tears to cry. I found myself step by step, now you acting mad. Y'all don't care, I don't give, I still feel them. I am happy, I don't care what you want. I feel good with my body and my soul. Negativity, I hit it with a suit. Purse by, yes, that's a fact. I am happy, I don't care what you want. I feel good with my body and my soul. Negativity, I hit it with a suit. Pose by, yes, skin, that's a fact. Chéri coco, vas-y dis-la. Je me casse avec mes copines, on te renvoie par la sauce. Hey. Chéri coco, vas-y dis-la. Tu joues avec mes sentiments, te montes bien en l'air. Hey. Je suis happy, je m'en fous de ce que tu veux. T'as zéro moula, tu veux jouer au couvre-feu. Je suis happy, je m'en fous de ce que tu veux. Ce badge transcende tous ces pétasses enrageuses. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bordel dans ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour te voir déverser tes pleurs quand tu me lècheras tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bordel dans ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour te voir déverser tes pleurs quand tu me lècheras tout à l'heure.
happy. I feel good. I am happy. I feel good. I am happy. I don't care what you want.
Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bordel dans ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour te voir déverser des pleurs quand tu me lècheras tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bordel dans ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour te voir déverser des pleurs quand tu me lècheras tout à l'heure.
I am happy, I don't care what you want. I feel good with my body and my suit. Negativity, I hit it with a suit. Post by, yes, that's a fact. I am happy, I don't care what you want. I feel good with my body and my suit. Negativity, I hit it with a suit. Post by, yes, that's a fact. I am happy, I don't care what you want. I feel good with my body and my suit. Negativity, I hit it with a suit. Post by, yes, that's a fact. I am happy, I don't care what you want. I feel good with my body and my suit. Negativity, I hit it with a suit.
Et c'était l'incroyable Uzi Freya sur Radio Campus Tours. Nous sommes toujours dans cette émission où nous parlons d'entrepreneuriat avec Ladi. Et alors, auditeurs, auditrices, chose promise, chose due, l'itinéraire d'une entrepreneuse, Alexandra Giraud. Vous êtes donc entrepreneuse, bénéficiaire de Ladi et vous avez un cabinet de pressothérapie. Alors, comment aimeriez-vous raconter votre itinéraire à nos auditeurs et à nos auditrices ?
Donc, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique déjà aussi, puisque par rapport à mon expérience. Donc, je suis partie d'une licence de géographie. J'ai eu une première expérience de travail dans le Gers. Je suis revenue en Indre-et-Loire. Et par le biais d'une entreprise, en fait, où il y a eu beaucoup de transmission de savoir oral, d'expérience. Donc, j'ai pu gravir les échelons. J'ai pu évoluer au sein de l'entreprise. Donc, comme on parlait tout à l'heure avec un petit peu les caricatures. Donc c'était un milieu très masculin, mais où tout s'est très bien passé, où il y a eu beaucoup d'échanges. Et quand il y a beaucoup d'échanges et de respect, on avance beaucoup mieux ensemble. Donc toutes ces expériences ont fait que j'ai pu évoluer. À un moment, j'arrivais à plus d'une vingtaine d'années dans le salariat, justement, riche de toutes ces expériences et de l'évolution, que ce soit bien de compétences techniques, de relations clientèles. J'ai réfléchi à une évolution professionnelle, en fait, qui me correspondait aussi à un moment où je souhaitais partir sur une nouvelle activité plus saine, naturelle, et ça m'a orientée vers l'entrepreneuriat, en fait. Donc, cette nouvelle perspective de création d'entreprise, donc elle se mûrit, comme on disait aussi, hein, même s'il y a de l'urgence, mais quelque part, elle mûrit petit à petit depuis quelques années. Après, il y a peut-être une urgence, comme disait Jordan, au moment de se lancer, mais tout le processus, en fait, se fait un petit peu dans le temps, malgré tout. On se cherche, on cherche sa voie, on commence à réfléchir, justement, sur les financements, s'il y a besoin de matériel, justement, comme on disait, sur plus ou moins la concurrence et nos propres envies. De projeter une activité de ce qu'on ressent à vouloir la faire. Comment on veut la faire, en fait. Donc, toutes ces étapes, effectivement, ça remet beaucoup en question. Parce qu'effectivement, l'entrepreneuriat, quand on sort du salariat, c'est aussi une incertitude sur tout ce qui est perte de revenus réguliers. Là, vous plongez dans l'inconnu par rapport à ça. Il y a toutes ces inquiétudes. Voilà, est-ce que je vais avoir assez de clients ? Il faut que je trouve un local. Il y a les charges qui tombent. Toute cette construction, effectivement, c'est un challenge, c'est un bon challenge, on avance, ça motive, parce que l'entrepreneuriat, c'est un choix volontaire. On ne tombe pas dedans par dépit. Donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'être accompagné par des organismes, puisque effectivement, on a fait un choix, on a des pistes de travail et on a besoin d'être accompagné. Donc c'est comme ça aussi un petit peu que j'ai mûri mon projet et où je suis arrivée au choix de la pressothérapie, effectivement. Donc, une activité plutôt douce, non médicamenteuse, qui en fait soulage, qui a sont des massages de confort en fait, qui conviennent à énormément de gens, jeunes, moins jeunes, tous âges effectivement. Et le but, c'est de soulager en fait les gens, de mieux les accompagner sur certains troubles qu'ils peuvent avoir. Donc c'est assez vaste. Hein. Ça peut être soulager les troubles de la circulation sanguine, comme on connaît tous un petit peu les jambes lourdes, les gonflements ou l'insuffisance veineuse. Elle a aussi une action drainante parfois, en stimulant tout ce qui est système lymphatique, qui favorise un petit peu l'élimination des déchets métaboliques. Notamment pour tout ce qui est activité plutonique, elle accompagne les sportifs. Donc elle améliore la récupération après l'effort ou une compétition, là où il y a eu beaucoup d'accumulation de toxines dans les muscles. Même en amont, en préparation aussi, en préparation de l'effort, ça oxygène un peu mieux le muscle et le sportif, on peut travailler sur une préparation commune. Donc toutes ces activités m'intéressaient, puisqu'effectivement, par effet d'entonnoir, en fait, j'ai éliminé plus ou moins certaines activités plus complexes. Mais ce qui m'a intéressé, c'est aussi à voir avec l'évolution en fait, de vie des gens. On s'aperçoit en fait qu'on vit de mieux en mieux plus longtemps. À l'inverse, on est de plus en plus sédentaire, ce qui est un problème aussi sur l'activité, la stimulation de l'organisme. Et on pratique aussi de plus en plus de sports, mais surtout les sports de résistance, en fait. Donc, toutes ces pratiques aident et accompagnent les gens à mieux vivre au quotidien. Alors, vous avez des besoins parfois ponctuels, qui peuvent être suite à un surentraînement, un effort plus marqué. Ça peut être aussi, par exemple, des gens qui voyagent, un retour en avion de longue durée où vous êtes ankylosé, une séance vous restimule l'organisme. Ou alors, après, des gens qui ont besoin de suivi plus régulier, qui ont des troubles plus marqués. Après, on peut travailler sur des séances plus répétitives et amener un confort plus régulier. Mon but aussi, c'était de mieux faire évoluer cette pratique dans le côté préventif. Plus vous y prenez tôt, en fait, plus vous préservez votre capital santé. Donc, ce qui est très intéressant, est de retarder au maximum les troubles complexes, voire après l'engagement dans la prise de médicaments. Donc c'est un petit peu tout ça qui m'a orienté vers ce nouveau métier. Et à un moment justement de mon parcours, j'ai donc cherché plusieurs organismes. Il y a un petit peu de tout, il y a du privé, du public, de l'associatif qui sont là pour vous orienter, donner des conseils. Mais tous parfois ne correspondent pas à votre projet. Que ce soit un gros projet, un petit projet, selon vos besoins, que de finances, ou certains vous orientent exclusivement sur la comptabilité, mais ne vous accompagnent pas, ne vous financent pas. Donc c'est un petit peu difficile de tout chercher partout. Lors de ma recherche justement en local, c'est comme ça que j'ai connu l'ADI en fait. Moi j'ai connu, puisque mon projet est un petit peu commencé, et comme le disait tout à l'heure Céline, là, je les ai connus pour un besoin de financement supplémentaire. Donc, mon projet était un petit peu avancé, le local était préparé et j'avais besoin d'un complément de finances pour continuer à lancer, communiquer sur mon activité. Et par cet intermédiaire-là, j'ai rencontré Jordan, sur lequel nous avons échangé. Alors justement, la relation est intéressante puisqu'il y a un échange. C'est-à-dire qu'en fait, les étapes sont intéressantes puisque donc ils peuvent aussi bien vous accompagner sur le financement, certaines formations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on écoute l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, donc il m'a présenté son organisme, ses actions. Après, il s'est intéressé à mon parcours, à mon profil, à mon projet et après à mes besoins. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a un entretien complet, pas que sur un point où on va vous dire montrez-moi vos finances, votre business plan et on va partir de là. Non. Là, franchement, c'était beaucoup plus intéressant d'échanger dans ce sens-là et d'être pris en compte en tant qu'entrepreneur dans sa globalité. Et effectivement, alors après, le deuxième point qui est très intéressant, donc il y a cette proximité, effectivement, et il y a toute cette réactivité. Lorsque vous, justement, entamez des démarches, lorsque vous avez besoin d'échanges, la prise des rendez-vous sont rapides, les conseillers sont disponibles, et les retours sur les démarches et les validations sont très, très rapides. Moi, ça m'a mis même pas 10 jours entre le premier entretien et la validation du financement. Donc ça, pour un entrepreneur qui, souvent, bah, de mois en mois, quand vous avez déjà vos charges, vos loyers, ça va très vite si on vous dit on attend 2 mois pour vous financer. Donc là, effectivement, c'est très rapide et très efficace. Ça, pour ça, c'est très, très agréable d'avoir rencontré l'ADI sur ce point-là. Et comme vous disiez aussi, j'ai pu bénéficier d'un garant. Voilà, donc un membre de ma famille s'est porté garant pour justement... faire valider ce financement.
Et alors, ce financement, vous l'avez évoqué, voilà, il a été utilisé pour quoi faire, en fait, dans votre activité ?
Donc celui-ci, c'est un financement pour relancer la visibilité, donc tout ce qui est communication, et aussi un peu de prévisionnel sur les loyers, un peu de trésorerie, puisqu'effectivement, moi j'ai un local, donc il y a aussi ces charges fixes qui tombent, en plus d'avoir un besoin de revenus. Donc effectivement, il y a des charges fixes, je suis dans la première année de création, donc effectivement, dans les 2-3 premières années de création, les revenus sont assez instables, faut se faire connaître, il y a l'effet d'ouverture, il y a des creux après, il y a l'effet vacances, faut arriver à faire connaître cette activité, la rendre pérenne, et c'est en ce sens-là où j'avais besoin d'un financement complémentaire pour renforcer cette présence dans la communication.
Alors on peut peut-être dire aussi que vous avez implanté votre cabinet, disons, dans une maison médicale, je crois. Vous êtes avec d'autres professionnels.
Oui, alors effectivement, mon intérêt était pas forcément de avoir une activité seule, isolée. Mon intérêt était aussi de travailler plus dans cabinets médicaux, maisons médicales pluridisciplinaires. C'est-à-dire une sorte de coactivité, d'être plus visible et que les gens puissent connaître cette activité qui peut être complémentaire à certains troubles qu'ils peuvent avoir. Donc oui, effectivement, c'était un choix de travailler dans des cabinets pluriactivité.
Alors j'ai justement à la main un flyer qui présente votre activité de cabinet de pressothérapie. Donc on a une photo où on voit une dame avec des grandes bottes. Est-ce que vous voudriez nous décrire les outils que vous utilisez pour votre activité ?
Oui, alors effectivement, voilà, ça peut faire peur, mais au contraire, c'est très agréable et tout se passe très bien et vous ressortez en meilleure forme. Donc effectivement, ce sont ce qu'on appelle des manchons, donc on peut pratiquer sur les jambes ou les bras. C'est-à-dire que ces éléments sont répartis avec différentes chambres et sont mis en pression, différents types de pression selon les troubles. Et ces manchons et ces bottes qui vont stimuler soit la circulation sanguine, soit le système lymphatique sur des durées précises, de sorte à favoriser la récupération ou soigner un trouble existant.
Donc c'est-à-dire que vous installez ces dispositifs sur les personnes et ça gonfle, enfin, comment ça
donc
marche ?
Donc effectivement, voilà, donc après un entretien d'abord préalable, savoir si effectivement il n'y a pas de troubles spécifiques ou de contre-indications marquées pour la personne. On passe à la pratique, effectivement la personne est installée sur la table d'examen. Donc on enfile les bottes, on voit avec elle le trouble qu'elle souhaite améliorer. Et effectivement, je pratique un certain type de programme. Les bottes se gonflent et se dégonflent à intervalles réguliers, de sorte à on pourrait dire presque à reproduire une sorte de massage, voilà, de stimulation, et qui fait travailler l'organisme sans effort pour le patient.
Donc peut-être voudriez dire quelque chose sur la lymphe. Alors j'insiste là-dessus, sur les drainages lymphatiques, parce que disons que c'est très à la mode sur les réseaux Instagram. Il y a beaucoup de publications sur les drainages lymphatiques, sur le fait que ça, voilà, qu'il y a plein de techniques magiques pour devenir, voilà, avoir une silhouette de rêve. Alors vous, qu'est-ce que vous aimeriez en dire ?
Alors justement, je voudrais apporter un bémol. Ce n'est pas avec ce genre de pratique que vous allez perdre du poids, affiner votre silhouette ou enlever tous vos troubles existants. Je veux apporter une nuance, ça a une action lymphatique, c'est-à-dire que ça va améliorer vos troubles. Après, vous avez les massages drainage lymphatique qui sont réalisés par les professionnels qui activent vraiment tous les ganglions, partie haute, partie basse. Là, ce sont des actions lymphatiques qui stimulent un organisme sain et qui vont effectivement éliminer. Mais vous n'allez pas ni rajeunir, ni... Voilà, ça apporte un confort, alors. Effectivement.
Zut, on voulait tous essayer.
Bon, j'ai perdu beaucoup de personnes aujourd'hui, mais voilà, il faut apporter une mesure entre ce que les gens voilà, peuvent vendre à outrance et pour ne pas justement, une fois que les gens arrivent et pourraient être déçus parce qu'on survend un protocole. D'accord ? Donc là, effectivement, ça améliore, c'est un confort. Ça peut être ponctuel ou un petit peu plus régulier en fonction justement du trouble des gens. Mais même si vous ne vous en apercevez pas immédiatement à la sortie de la séance, selon les protocoles, votre corps réagit. C'est-à-dire que parfois, le soir même ou le lendemain, bah, vous avez plus besoin de vous hydrater. Votre corps réagit, vous urinez peut-être beaucoup plus parce que votre corps, en fait, évacue. Il a été stimulé, tous vos organismes ont été stimulés. Et justement, ça évacue un peu plus dans ce sens-là. Voilà. C'est la nuance à apporter avec tout ce qu'on peut voir voilà, sur les réseaux sociaux et une sensation de facilité à atteindre le nirvana facilement en peu de temps.
Voilà, donc il faut faire un peu de sport peut-être aussi.
Donc la pressothérapie est toujours complémentaire à quelque chose, c'est-à-dire que complémentaire à votre hygiène de vie. Donc effectivement, ceux qui ont des troubles de la circulation sanguine, où, bah, il faut aussi compléter avec une activation par la marche. Ça, voilà, c'est toujours complémentaire à quelque chose. Tout seul, vos troubles existants ne disparaîtront pas comme par magie. Donc voilà, l'action lymphatique c'est pareil, si vous savez que systématiquement ou de façon héréditaire vous avez des ralentissements d'évacuation de la lymphe, voilà, il va falloir le travailler plus régulièrement. Donc c'est toujours à côté de quelque chose. Voilà, le sportif c'est pareil, si effectivement il pratique une activité régulière, il sait s'entretenir, il s'entoure d'un coach, il fait attention à son alimentation, tout ça c'est complémentaire. Mais si quelqu'un part sur une séance hyperactive à fond, au-delà de ses limites, forcément, le lendemain ou le surlendemain, il va en payer les conséquences un petit peu. Donc tout ça, c'est un accompagnement et c'est toujours complémentaire pour améliorer soit la récupération, soit améliorer le trouble des quotidiens des gens qui ont les jambes lourdes, sédentaires ou des gonflements. Voilà, tout ça, c'est un accompagnement. C'est pour ça qu'on échange ensemble, en fait, pour savoir ce que recherchent les gens. Et les troubles qu'ils ont, si c'est ponctuel, si c'est récurrent, et leur sportif, si c'est un besoin de récupération après l'effort, si c'est une préparation, ou si c'est juste le temps de la reprise d'une activité qu'on a arrêtée pendant longtemps, aider à être accompagné sur la remise en forme musculaire. Voilà.
Est-ce qu'il y a des contre-indications à la pressothérapie ?
Oui, effectivement, il y a quelques contre-indications à la pressothérapie qui sont... exclusive forcément, donc tout ce qui est femme enceinte, tumeur, chimiothérapie en cours et hémophilie. Ça par contre c'est absolument contre-indiqué parce qu'il faut quand même, parce que comme ça stimule en fait en profondeur, s'il y a des troubles ou des traitements qui sont présents, ne pas accentuer ou dégrader l'impact voilà, médicamenteux ou aggraver une situation existante. Donc oui effectivement, mais c'est pour ça qu'il y a toujours un entretien en fait avant. Ensemble, on fait un bilan un petit peu sur les troubles existants, s'il y a des maladies en cours, voilà. Et après, effectivement, soit on valide la pratique ou pas, ensemble.
Merci Alexandra Giraud. Et alors juste une question, quel est le statut de votre entreprise ? Est-ce que vous êtes auto-entrepreneuse ? Est-ce que vous avez une SARL, une SAS, une
alors,
SIC, une
moi, moi, j'ai choisi directement, enfin on m'a conseillé plutôt de directement démarrer sur l'entreprise individuelle. Voilà, parce que l'auto-entrepreneuriat, donc sachant que l'auto-entrepreneuriat était surtout pour lancer l'activité, on est parti immédiatement en fait sur l'entreprise individuelle, puisqu'on projetait d'avoir une activité pérenne. C'était, voilà, donc je suis parti sur ce statut-là, on m'a accompagné pour ce statut-là.
Merci à vous. Alors voilà, je crois qu'on a déjà un petit peu débordé, hein, mais c'est pas grave. Je pense que nos auditeurs nous écoutent avec attention, donc ils nous en voudront pas. Peut-être que je me tourne à nouveau vers vous, Jordan. Donc, quel type de structure on peut lancer ou voir accompagner avec l'ADI ? Donc, pas forcément d'autres entrepreneuriat, ça peut être une entreprise individuelle. Quel autre statut on peut ouvrir avec un accompagnement de l'ADI ?
Eh bien, écoutez, on peut ouvrir tout type de statut à partir du moment où elle est génératrice d'une activité économique et d'emploi. Donc ça peut être aussi bien une SAS, une SA, ça peut être aussi bien une association. Typiquement, on accompagne les SAS, les SARL par exemple, à condition que, enfin en tout cas à condition, la plupart des porteurs de projets sur des SARL que l'on peut recevoir souvent sont des associés égalitaire, de manière à ce que l'emprunt, le risque porté en fait par cet emprunt bancaire soit porté par les deux personnes présentes dans le projet. D'accord. Au niveau des associations, on en accompagne aussi. L'idée étant que elles puissent, comme je viens de le dire, donc générer de l'activité économique ou participer à la création d'emplois. Donc il n'y a pas à proprement parler d'obstacle. De forme juridique que l'on n'accompagne pas. Tout va dépendre justement du projet en fait, final de la structure qui va être mise en place.
Et alors sur des modèles, disons, un peu plus alternatifs comme une SIC ou une SCOP
Donc on accompagne, également. Ouais. Mmh. Donc, parce que souvent, ça arrive que le projet soit porté par quelqu'un qui a le statut de salarié. Ça revient à peu près au même, c'est-à-dire que tant que le projet en fait génère une activité économique et est lié en fait à la création d'emplois.
Parce que ça, c'est pas forcément des modèles aussi qui sont traditionnellement liés à l'entrepreneuriat, hein, des SIC, des SCOP ou même des associations, c'est pas forcément les structures auxquelles on pense en premier.
Alors, en effet, je pense que c'est pas les plus. C'est pas ces sociétés qui viennent nous voir le plus souvent. Nous, en majorité, sur la région Centre-Val-de-Loire, à 70%, c'est des personnes en auto-entrepreneuriat qui viennent nous voir. De par la taille de notre financement, on va jusqu'à 15 000 euros, donc on est vraiment sur des très petites entreprises. Mais maintenant, en effet, comme le dit Jordan, quel que soit le statut, on finance.
Puis il y a également le fait qu'aujourd'hui, la micro-entreprise est la forme privilégiée pour la création d'entreprises dans toute la France. C'est aussi ça qui fait que la majeure partie des entreprises que l'on accompagne aujourd'hui sont sous la forme de la micro-entreprise.
Alors peut-être qu'on peut rappeler aussi à nos auditeurs par quel réseau on vient vers l'ADI. Est-ce que vous avez un réseau de partenaires qui oriente les personnes vers vous ?
Oui, alors on a un certain nombre de partenaires en effet, et les premiers partenaires, c'est nos entrepreneurs eux-mêmes, puisque le levier numéro un, c'est le bouche à oreille qui nous aide à nous faire connaître. Après, on a bien sûr tout le réseau de la création d'entreprise, donc que ce soit le réseau associatif avec France Active, Initiative, BGE, etc. Le réseau plus institutionnel avec les consulaires, la CCI, la CMA, France Travail, bien sûr. Et après, on va aller chercher aussi des partenaires plus sociaux qui travaillent sur le champ du social, donc des entreprises d'insertion, des entreprises d'accompagnement, diverses et variées. Toute personne qui peut, ou toute structure qui peuvent nous aider à nous faire connaître auprès de notre public. Et nous faisons également beaucoup d'actions, ce qu'on appelle d'actions aller vers. Donc on sort très régulièrement de nos bureaux pour aller à la rencontre de notre public qui n'aura peut-être pas tendance ou envie ou se sentira pas de pousser nos portes parce qu'ils ne se sentent pas encore complètement dans l'âme d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse.
Voilà. Alors peut-être la minute à Jarda, quels sont les prochains événements à Tours et alentour ?
Alors, je crois qu'il y a un atelier de prévu, non, avec CitéLab ?
Exactement. Alors, la date, il me semble que c'est le 25 septembre. Donc avec le Cité Lab, on aura un petit atelier qui est mis en place à l'espace passerelle du Sanitas. Où en fait justement on va discuter entrepreneuriat, justement faire découvrir en fait ce que c'est que l'entrepreneuriat aux personnes du quartier, et en fait mettre en avant le fait qu'il y ait des partenaires tout autour d'eux qui puissent les accompagner pour rendre possible leur projet.
Et un deuxième événement, c'est trois fois par an, on fait la semaine pour créer sa boîte, qui est donc une semaine d'événementiel organisée par l'ADI au niveau national. Et donc là, la troisième semaine en 2025, ce sera la semaine du 6 octobre, ou 7 octobre, je sais, le lundi 6. Et à chaque fois, on choisit une thématique. En mois d'octobre, la semaine du 6 octobre, ce sera sur les migrants. Donc les personnes qui arrivent sur le territoire français, qui peuvent venir de pays où l'entrepreneuriat est bien plus développé qu'en France. Et du coup, c'est également un levier d'insertion professionnelle et sociale intéressant à travailler avec ce public-là. Donc là, il y aura un certain nombre d'événements organisés sur l'Indre-et-Loire et dans toute la région Centre-Val-de-Loire. Et pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site adie.org, donc adie.org, et vous avez accès à tous les ateliers que nous organisons sur la région Centre et en France de manière générale.
Et alors, on peut aussi dire que sur ce site de l'ADI, on trouve plein de ressources. Il y a des fiches pratiques.
Exactement.
Peut-être un mot sur toutes ces ressources qu'on trouve sur le site.
Ben, en fait, on veut que les outils, Jordan parlait tout à l'heure des outils qu'on développe, qu'on veut le plus pragmatique possible, les plus simples possibles d'usage, pour des notions qui peuvent parfois être complexes. Mais voilà, vous allez aussi bien retrouver des outils sur le choix du statut juridique, des outils aussi pour gérer correctement son entreprise au quotidien, des fiches pour commencer à trouver des bons plans ou réfléchir à l'impact environnemental de son entreprise. Donc comment s'améliorer de ce côté-là. Voilà, énormément de fiches pratiques
sur
ce site-là, qui est un site ressource. Tout est gratuit sur adi.org. Vous avez accès à plein de webconférences, donc plusieurs webconférences par mois. Tout est gratuit, même si vous n'êtes pas financé par l'ADI, même si vous ne faites pas partie aujourd'hui du réseau ADI. Vous avez juste à vous inscrire, c'est gratuit. Profitez-en, abusez-en, c'est pour tout le monde. Et voilà, et j'en profite aussi pour dire que l'accompagnement que nous faisons de manière générale auprès des personnes qu'on a financées, l'accompagnement est également gratuit.
C'est important de le souligner. Alors peut-être Alexandra, je crois que vous avez un site aussi.
Oui, exactement. Vous pouvez me retrouver sur pressothérapie-tour.fr.
Voilà, avis aux amateurs, vous pourrez aller voir ce site également. Et alors, pour terminer cette émission, je vous laisse la parole à chacun pour nous dire votre mot de la fin. Comment vous voudriez conclure cette émission? Là, tout le monde va se regarder en disant « Oh, qui commence ?»
Alexandra. Bien, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que la rencontre avec cet organisme, l'ADI, ça a été une très, très belle rencontre.
Merci.
Eh bien, pour moi, le mot de la fin, et surtout celui que j'aimerais que l'on retienne, c'est avec le bon accompagnement, tout est possible. Donc venez nous voir.
Et moi, je finis par le fait que nous avons financé et accompagné 700 entrepreneurs l'an dernier. On va faire plus cette année et encore plus les années suivantes. Donc je lance un appel au bénévolat, puisque nous sommes des salariés et des bénévoles. On est 14 salariés en région centre et 35 bénévoles. Et il faut absolument qu'on soit encore plus nombreux en bénévoles, donc pour accompagner efficacement l'ensemble des entrepreneurs qu'on a financés, nous aider à nous faire connaître, nous aider à nous organiser aussi, nous aider à faire les événements. Donc que vous soyez étudiant, salarié, retraité, si vous voulez faire du mécénat de compétences, enfin, il y a plein de moyens. En tout cas, nous, on a besoin de vous. Donc, n'hésitez pas, adi.org, et vous nous faites un petit mot, on vous répondra avec grand plaisir.
Voilà, à bons entendeurs. Alors, je rappelle quant à moi que cette émission est rediffusée aujourd'hui même à 17h et écoutable à volonté en podcast sur notre site. Alors, merci à Céline Constantin, directrice territoriale de l'ADI Centre Val-de-Loire, Jordan Moé, vous êtes conseiller ADI à Tours, Alexandra Giraud, entrepreneuse, vous avez été accompagnée par l'ADI pour votre cabinet de pressothérapie. On va se quitter en écoutant Rosemary Stanley et l'ensemble Contraste Schubert In Love.
Small.